Et oui, c'est le retour de notre Pascal CV aujourd'hui. Retour de vacances. Comment ça va, mon ami?
Ça va bien. Ça va cool. Plus reposé que tous ceux qui travaillent à la CAQ, j'ai l'impression.
Ah oui, ça brasse à la CAQ. T'as eu du petit rattrapage à faire. T'es parti. François Legault, Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel ont décidé de partir aussi.
Ça s'est un peu passé comme les, entre parenthèses, vacances d'Antonine Iaccarini, notre collaboratrice.
Oui.
T'essaies de décrocher, puis à un moment donné...
Pablo avait décidé qu'il sacrait son camp pendant ses vacances.
Ah, tout est arrivé pendant
qu'elle est tentée. Christian Dubé a dit à François Legault, go, doigt d'honneur, tu m'en referas plus ça. François Legault est parti dès qu'Antonine est revenue. La brasse, finalement, politique québécoise.
Et puis pendant cette semaine-là, je reçois ça, je dis à Max, j'étais bien tranquille avec un petit drink. Puis là, il dit, voyons, ça, il l'a annoncé à 10h, j'avais une heure de plus que vous, où j'étais.
Oui.
Donc, 11h45, c'est une bonne affaire pour un petit drink en vacances. Et puis, pop, François Legault démissionne.
Ouais.
Là, c'est dur de ne pas décrocher parce que nous, on l'a eu en entrevue quelques jours avant le 24 décembre. Tu dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il réaffirmait corps et âme qu'elle allait se représenter. J'avais le goût de parler en tour. Je me dis, voyons, c'est une stratégie politique. Tu le dis pas tant que tu n'es pas sûr que tu quittes finalement. Il y a plein de choses à comprendre de tout ça, mais surtout, écoute, un homme à la mer, puis l'homme à la mer, c'est le parti de la CAQ parce que qui va réussir à reprendre le bateau puis à aller de l'avant avec ça? Ouh.
On va justement parler dans le caucus avec Antonine Iaccarini, à savoir si c'est une bonne chose pour le futur chef que ça parte comme ça à grande porte à chaque jour. Qui va être le prochain ou la prochaine demain? C'est à se poser la question. 418-971-1021 pour parler avec nous, interagir sur ce qu'on dit. Je salue Carl qui est présent. Bon midi, mon Carl. Il est en route pour Moncton dans son camion. Let's go, mon Carl. On lâche pas. BLVD.fm, c'est les meilleurs moments qui se retrouvent à cet endroit. Vous pouvez également nous écouter via la web radio, notre application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store. Les haut-parleurs intelligents, vous dites écoutez BLVD. L'application en passant, là, moi, là, je suis monté à Rivière-du-Loup en fin de semaine en tournoi de hockey. Et comme sur le fun, je descendais hier sur la route avec colosse dans mes oreilles grâce à l'application. J'étais pas obligé d'écouter la radio de Charlevoix ou c'était le bingo, j'ai bien ri. J'aime ça. J'aime ça putainer ces petites stations même de région. Puis hier matin, c'était le bingo. E16.
Hey, ça... Les genres de... J'appelle ça des foires, je sais pas comment le dire à la radio, mais un genre de vente de garage à la radio.
Ah, c'est ça.
Dans les régions, dans des radios communautaires, ça se fait encore du genre divan à vendre, 250 $ à tel endroit. Je suis fascinée, là. C'est l'ancien parvis de l'église, mais sur des ondes radio.
C'est ça.
Quand tu veux t'échapper... Puis toutes les publicités sont exceptionnelles aussi.
Oui, E16, mais là, on n'avait pas notre carte de bingo, moi pis nous, on ne pouvait pas gagner, on était vraiment déçus. Twitch.tv, /BLVD, /FM, venez nous voir, venez voir nos belles faces. On a remplacé Mathias le Barbu par Pascal. Mais hey, la semaine passée, on a battu pratiquement des records sur Twitch.
Ah oui?
Oui, parce que j'arrêtais pas de dire au monde. Je disais, là, c'est pas correct. Quand c'est des gars en ondes, il y a moins de gens sur Twitch. Fait que là, les gens ont eu pitié de moi.
Tu voulais équilibrer le tout.
Je suis vraiment content. Je suis vraiment, vraiment content. Et également, je vous rappelle, abonnez-vous à notre page YouTube, notamment le Pit Stop qui se retrouve, le Pit Stop de ce matin qui se retrouve sur notre page YouTube et nos différents podcasts. Pascal CV, ça n'a pas changé dans le caucus d'Antonine Iaccarini, qui est revenu la semaine dernière. Mais avant ça, fais-nous donc 3-4 nouvelles, voir qu'est-ce qui se passe dans l'actualité qu'on doit savoir.
Oui, parce qu'il n'y a pas juste la politique qui attire notre attention. Cet homme-là aussi a réattiré mon attention. Je pensais déjà l'avoir vu dans l'actualité, c'est le cas. Je vous parle d'agression sexuelle ici, à Québec. C'est un massothérapeute qui a été arrêté et à nouveau parce qu'il était déjà accusé en octobre dernier pour des crimes qui étaient similaires. Il s'appelle Bruno Canuel, 68 ans, et il a été arrêté ce matin par le service de police de la ville de Québec. Donc, à nouveau arrêté en lien avec une douzaine d'autres agressions sexuelles présumées. Ouf. C'est dans le secteur de Lac-Saint-Charles qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrestation, état de 11 autres chefs d'accusation d'agression sexuelle. Il devrait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Québec, donc dans la journée. C'est ce qu'on a comme information. Et je vous rappelle que l'enquête du corps de police a été lancée l'été dernier. Plusieurs personnes avaient signalé le comportement du gars qui pratiquait la massothérapie depuis sa résidence. Et c'est pourquoi on vous demande toujours, si vous avez de l'information, de contacter les policiers. Mais en mai dernier, on publiait un grand dossier sur ce sujet-là de gestes à caractère sexuel qui était posé par de nombreux massothérapeutes qui se retrouvent ensuite devant les tribunaux. Et cet homme-là en faisait partie. Donc, nous nouvelle arrestation pour Bruno Canuel, 68 ans, de la région de Québec. Sonia Lebel a renoncé à se porter candidate à la succession de Legault, va devoir quitter la vie politique, devoir, ben, c'est son choix, et elle l'a annoncé aujourd'hui. Elle renonce du même titre à se porter candidate à la succession de François Legault. C'était quelqu'un qui était vu comme étant une relance possible, en fait, pour le dit parti, essayer d'avoir un pilier du gouvernement qui reste et qui soit capable peut-être de faire la course à la chefferie de la CAQ. Mais elle l'a dit, et je cite, « Après mes réflexions et de longues conversations avec ma famille, mes amis, mes collègues, j'en reviens à la conclusion que le temps est venu de me retirer de la vie politique à la fin du présent mandat. » Et là, plusieurs personnes témoignent de sa grandeur en tant qu'humaine, en tant que parcours, sa grandeur de CV. Elle avait une bonne notoriété, vous savez. Elle s'était fait connaître, entre autres, comme la pugnace procureure de la commission Charbonneau. Et ensuite, ben, elle est allée à la politique, nommée ministre de la Justice des Relations canadiennes dès l'arrivée du pouvoir de la CAQ en 2018, ainsi de suite jusqu'à maintenant. On nourrissait peut-être l'espoir pour certains qu'elle brigue justement la direction de la CAQ, ultimement peut-être même accède au poste de première ministre, mais ça sera entre les mains, entre autres, de Christine Charrette qui s'est officiellement présentée, Simon-Jolin Barrette qui ne l'a pas fait encore, mais que certains souhaitent voir se présenter. Mm-hmm. Bernard Drinville, n'a pas encore proposé sa candidature, mais il a salué sa collègue Sonia Lebel pour ses longues années en tant que collègue qu'il trouve émérite dans le dossier. Et je termine sur une nouvelle économique à Québec, du moins, importante à nommer, qui ne fait pas l'actualité encore, mais la Ville de Québec a autorisé la mise en chantier de 5 700 logements en 2025. Donc, c'est une hausse de 80 % par rapport à 2024. En 2024, il y avait 3 774 mises en chantier pour des logements qui avaient été acceptés. Là, je vous rappelle, on est à 5 700. C'est la plus forte croissance au pays parmi les grandes villes canadiennes. Comme quoi, on peut comprendre qu'il s'agit vraiment d'une importance ici dans la ville. Est-ce qu'on va réussir à colmater toutes les brèches, tous les déficits en termes de logements? La réponse est non, mais on veut une avancée. Et le maire de Québec s'est prononcé là-dessus. Il a dit qu'ils ont dépassé cette cible de nouvel objectif, mais aussi souhaitent dépasser les 6 000 logements par année.
Bravo à l'administration de Bruno Marchand, justement, qui continue son bon travail en termes de création de logements, mais surtout, félicitations aux entrepreneurs à Québec, justement, qui croient à la ville et qui veulent la développer davantage. Je pense notamment à la gang des Trudel, là, qui ont plein de projets dans la ville de Québec présentement. En chantier. On passe au caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus d'Antonin Iaccarini avec un nouveau bed.
J'aime ça.
C'est donc bien bon, hein?
Parce qu'il y avait comme un petit son dans l'ancien. Mais je l'aimais, là, l'ancien. Là, je veux pas chialer.
Mais ça, là, est solide.
Mais il y avait un petit « ouais. Puis des fois, je me disais, hey, t'es dans ton char, ça peut... ouais, mettons que t'écoutais ça fort, ça pourrait... »
Ça chie pas juste dans tes oreilles, non. Ça peut chérir
j'aime
sa route.
Ça, j'aime ça, j'aime ça. Anto, je saute directement avec une question de Claude André que plusieurs se posent. Et qui est très, très, très bonne. Allô, Super Trio. J'avais un doute que Geneviève ne se représenterait pas. Plus Dubé, Legault, Carman, Lebel. Je crois que Jolin Barrette va se désister. Ainsi, il n'y aura pas de course et la CAQ. Il n'y aura pas de course à la CAQ, puis la CAQ va être sur le bulletin de vote en octobre, mais risque de disparaître. C'est tough, là, pour Simon-Jolin Barrette qui pense se présenter, pour Christine Fréchette, pour peut-être un Bernard Drinville, de dire « OK, m'en va dans cette, sur cette arène-là pour aller avec un parti que je ne sais pas à quoi il va ressembler parce que les plus grands partent. »
Ben c'est ça, c'est des têtes d'affiche, hein, des personnes qui ont été des ténors à la CAQ. Sonia Lebel, tout particulièrement, parce que elle était... en fait, elle a fait partie, les gens le savent moins parce que c'était plus en coulisses, mais elle faisait partie de la série de bonnes nouvelles qui ont sorti la CAQ là, d'un espèce de marasme là, dans lequel la CAQ se trouvait avant l'élection de Geneviève Guilbeault dans Louis Hébert, dans le cadre d'une élection partielle. Et la CAQ, ça allait pas très bien. Gérard Deltel était parti, je sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a eu une élection partielle dans sa circonscription de Chauveau, que la CAQ a perdu au profit du Parti libéral. Ça allait pas bien. Il perdait toutes ses partielles.
C'était l'ancienne chef d'antenne de TQS qui avait gagné.
Véronique Tremblay.
Tremblay, et voilà.
Et la candidate de la CAQ, c'était Jocelyne Cazin.
C'est vrai!
OK, c'était une élection partielle complètement surréaliste.
Oui, et ça l'avait fait la manchette ici à Québec. Et les gens avaient, oui, voté pour le Parti libéral, mais aussi contre le fait que la CAQ prenait quelqu'un de Montréal et l'amenait à Québec. Ça avait tellement pas passé.
Candidate parachutée par la CAQ. Puis le PQ, qui avait à peu près aucune chance de gagner dans Chauveau, puis qui avait une candidature très bien, qui est le maire de Stoneham, je pense, qui a été le maire de Stoneham pendant longtemps. Le chef du PQ, à ce moment-là, c'était un Pierre-Carl Péladeau fraîchement débarqué. Il y avait Julie Snyder qui faisait du porte-à-porte. Écoute, c'était une élection partielle complètement folle, OK? Moi, j'y étais, là, puis c'était comme une espèce de grand vaudeville. Cela dit, ça allait pas bien pour la CAQ à l'époque. Et l'embauche de Sonia Lebel comme conseillère. Donc, Sonia Lebel est rentrée. Je pense qu'elle était même directrice de cabinet adjointe, si je ne m'abuse. C'était gros, là, à l'époque, là, parce qu'on la voyait pas en politique nécessairement. C'est François Legault qui l'a convaincue de venir. C'était l'ancienne procureure de la commission Charbonneau, connue pour avoir malmené des méchants bandits potentiels pendant la commission. Donc, Sonia Lebel, c'est un gros morceau. Tu disais, c'est dur pour la CAQ parce que tu as une course à la direction qui ouvre une fenêtre vers une possible, disons, remontée. Parce que c'est difficile là, pour la CAQ, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que, mettons que tu réfléchissais, est-ce que je me présente ou pas, tu pourrais te dire, bien, écoute, je vais attendre de voir ce qui se passe avec la course à la chefferie. Premièrement, au fédéral, quand ils ont fait une course à la chefferie, ils ont remplacé Justin Trudeau, ils sont allés chercher un autre mandat, qui sait. Là, ce que ça envoie comme message avec l'annonce de Geneviève Guilbeault hier et de Sonia Lebel aujourd'hui, c'est que les têtes d'affiche s'en vont de toute façon. C'est sûr que ces deux femmes-là étaient des candidates potentielles. Donc, à un moment donné, elles doivent annoncer est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et plutôt que de dire j'y vais pas, décide de dire ben moi j'ai réfléchi et de mettre ça dans une réflexion qui est plus globale pour peut-être éviter de démontrer que, ben, dans le cas de Geneviève Guilbeault, est-ce qu'elle avait les appuis nécessaires? Est-ce qu'elle était « brûlée » entre guillemets? Elle a réussi à transformer le message en « je prends une décision pour mes enfants ». Donc, au terme de la stratégie de communication politique, c'était plus habile de le faire comme ça. Pour Mme Lebel, peut-être, moi je me dis, à un moment donné, si j'étais Simon-Jean Labarrette qui y pense très sérieusement, ou Christine Fréchette, je me dirais, il faudrait que les gens arrêtent d'annoncer qu'ils s'en vont, là, parce que ça fait vraiment comme ça va pas bien.
Je me demande des fois, tu sais... Sonia Lebel, j'ai rien vu passer à ce niveau-là. Je peux rien affirmer. J'ai vu quand même dans l'actualité, dans ma reprise de ce que j'avais laissé aller, que pour Mme Guilbeault, il y avait peut-être quelque chose qui allait s'en suivre suite à la SAQ Clic, puis l'enquête qu'on a eue à ce niveau-là, la commission Galant. Peut-être que, bon, c'est un salut en ce sens-là. « Hey, ça va être éclaboussé, je veux pas nuire au parti, etc. » Je pense que je pourrais même me nuire, là, personnellement, en tant que personnalité politique. Donc, son choix, moi, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus en ce sens-là. Après, je suis pas dans ses culottes, là, mais au niveau familial, c'est une couple là, qui partent là, en politique, qui disent « la famille », puis bon, je me dis, effectivement, une façon de se redorer. Mais pour Mme Lebel, c'est malheureux parce qu'on vient de se poser la question « Bon, y a-tu quelque chose aussi qui pourrait l'éclabousser? Y a-tu. Mais elle semble pas avoir quelque chose à son dossier.
Non, absolument pas. Puis moi, je la connais bien, Mme Lebel. C'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré, que je respecte beaucoup. Et ce n'est pas quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir et d'être le chef absolument de quelque chose. OK? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la voient là, mais elle, elle s'est pas.
Présentée pour ça, là.
C'est pas un rêve de jeunesse, là, nécessairement, de devenir première ministre. Je pense qu'elle est très, très fière du travail qu'elle a accompli et elle va ressortir de la politique. Bon, ça n'a pas toujours été facile, là, avec les syndicats, les négociations, etc. Mais avec cette annonce qu'elle fait aujourd'hui, elle ressort de la politique un peu indemne. Mm-hmm. Parce que c'est difficile. Quand t'es chef, tu finis toujours un peu mal. Là.
En effet.
C'est une grosse décision.
Oui, puis c'est pas facile non plus de sortir de la politique indemne. Et à cet effet-là, on écoute Geneviève Guilbeault, par contre, qui ne regrette pas du tout d'être allée en politique.
Faire de la politique, c'est vivre avec des faussetés, des insultes et des critiques abondantes et permanentes. Mais si l'acharnement médiatique est le prix à payer pour porter des gros dossiers, pour aller au front et se mettre à risque pour faire avancer le Québec, je le referai demain matin. Parce que c'est trop important et parce que c'est aussi important que des femmes continuent de se lancer et qu'on continue d'être fiers collectivement de chaque femme qui brave le contexte très difficile de la politique de nos jours.
Elle a beaucoup insisté là-dessus hier dans sa conférence de presse sur l'importance de représenter les femmes, l'importance de donner un véhicule à la femme en politique. Puis là, j'en reviens à ce que tu nous as dit la semaine dernière de l'homme blanc et de sa confiance
débordante. Sa confiance infinie.
Geneviève Guilbeault, bon, il y a nécessairement certains ratés qu'elle a fait, puis je crois qu'elle va se faire blâmer avec sa clique. Mais somme toute, elle sort de la politique en représentant la femme battante qui est allée jusqu'au bout.
Ouais. Donc Geneviève Guilbeault qui a choisi d'annoncer la fin de son parcours politique pour l'instant d'un épisode, j'ai envie de dire, parce qu'on pourrait la revoir, elle est jeune, là, elle a un petit peu plus de 40 ans, elle pourrait revenir, elle pourrait faire partie de l'espace public, elle pourrait chroniquer, elle pourrait faire plein de choses, là, Mme Guilbeault. Hier, entourée de famille, de collègues, hein, elle n'était pas seule comme quand elle a annoncé la fin du troisième mois avec ses cartables. Et elle a vraiment axé son allocution sur, ben, premièrement, elle voulait être positive. Elle n'est pas arrivée abattue du tout. Elle a dit qu'elle était très fière, que c'était vraiment une belle journée pour elle. Elle en a profité pour rappeler plusieurs de ses accomplissements. Mais c'est vrai que, même si elle dit que ça n'a rien à voir avec l'actualité, ben, la semaine passée, sur ce vide, Nicolas Lachance, pour en parler justement sur tes ondes, il y avait cet avis de ce préavis de blâme qui a été coulé, là, on va se le dire. Là,
ben oui.
C'est une belle petite jambette. C'est une belle petite jambette à une candidate potentielle à une course à la chefferie. Tu dis, je pense qu'elle va être blâmée pour sa clique. Attention, moi, je maintiens que juste la chronologie de sa clique, elle ne peut pas être la grande coupable. Oui, tu peux être coupable d'avoir mal, après, répondu, gérer la crise, avoir menti en commission. Tout ça, c'est possible.
Bien, avoir mal interprété où on était rendu dans le budget au moment où elle est arrivée.
Écoute, elle est arrivée en poste. Et la chenoute a pogné 3 mois plus tard. Je veux dire, à un moment donné, je dis pas là, qu'elle est parfaite là, du tout, mais j'ai hâte de voir les conclusions dans le rapport parce que je pense que le rapport va être plus doux avec elle que le spin avant le rapport.
Okay? Pourquoi l'avoir annoncé dimanche, Antonine, selon toi?
C'est une excellente journée médiatique, le dimanche, pour annoncer ce genre de choses-là, parce que le lundi matin, tout le monde parle de ça. C'est un moment où il y a de l'attention, les gens écoutent la télé le dimanche soir, donc c'est un bon moment. En fait, j'ai trouvé que ça allait vite un peu après le départ de M. Legault, parce que moi, tu sais, je me dis peut-être qu'elle aurait dû attendre, mais en même temps, il fallait tirer sur le pansement parce que les spéculations allaient bon train. En fin de semaine, j'ai essayé de me rappeler du bilan de Mme Guilbeault dans sa globalité parce que les commentaires qu'on reçoit sont souvent très négatifs et beaucoup d'animosité envers Mme Guilbeault. C'est un personnage qui est quand même un peu polarisant. Et je suis revenue en arrière, je me suis demandé c'est quoi le parcours politique de Mme Guilbeault. Premièrement, c'est l'élection partielle de 2017 dans Louis Hébert. Okay? Sa maman démissionne dans une crise. Je me rappelle même plus c'est quoi. Je me rappelle même plus.
Sa maman, sur la crise de commissaire à l'éthique. Et
oui,
là,
des problèmes d'éthique. Là.
Puis là, il s'était fait trouver en Floride sur un terrain de golf.
Oui,
alors...
la Floride puis l'avion, ça, je m'en rappelle. Mais d'où c'est venu, ça? C'est
la commissaire à l'éthique.
C'est la commissaire à l'éthique d'une affaire, il me semble, premier tech. Là, une affaire comme ça. Donc, sa maman démissionne. La CAQ devait présenter un autre candidat. Okay.
Oui.
Et le Parti libéral aussi, d'ailleurs, deux candidats qui, finalement, il y a des affaires qui se sont mis à sortir sur eux autres assez rapidement et ils ont dû remplacer, les deux partis politiques ont dû remplacer leurs candidats. Donc, Geneviève Guilbeault, c'était un plan B. Et sa victoire dans Louis Hébert a vraiment été le début du chemin qui a mené la CAQ vers la victoire de 2018.
Exactement. Ça a été le début de la fin pour les libéraux. Je compare ça beaucoup à Jean Talon 2023.
Absolument.
C'est le lancement du PQ, le renouveau du PQ versus le début de la chute de la CAQ.
Les partiels dans la région de Québec, ça fait tout...
Déterminant.
C'est déterminant pour
toute la
politique.
Peut-être que François Legault voulait plus qu'on soit à capitale nationale, mais on l'est encore.
On l'est encore.
C'est nous autres à Québec qui décident de la politique.
Mais c'est vrai que, de souvenir, elle avait amené quand même un caractère très charismatique à la CAQ. C'est vraiment pas l'étiquette
absolument
qu'elle a en quittant, mais un grand charisme, une femme de tête, la place aux femmes en politique.
Enceinte. Faire campagne enceinte.
Enceinte. Et d'ailleurs, ça avait été... Moi, je m'étais chicanée avec des gens là, qui disaient, voyons, elle pourrait pas s'occuper de son comté, s'occuper de son bébé. Oh, mon Dieu. Donc, ça, c'est un autre élément, je trouve, qui marque le parcours politique de Geneviève Guilbeault. Qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, elle incarne la normalisation de la parentalité en politique.
Mm-hmm.
OK, il y en a eu d'autres. C'est une nouvelle génération d'élus, hein. Il y a d'autres députés qui ont pris des congés de paternité, de maternité. On a vu des bébés à l'Assemblée nationale. Mais Geneviève Guilbeault, elle était ministre. Donc, elle a fait son élection enceinte et après, elle a eu son deuxième enfant en étant en poste. Donc, elle a vraiment contribué à ça. Elle mettait beaucoup ses enfants de l'avant. On peut avoir des débats sur si c'est une bonne idée de mettre nos enfants sur les médias sociaux. Je n'embarque pas là-dedans pour aujourd'hui, mais ça a contribué aussi à démontrer que c'est possible d'avoir une carrière politique avoir des enfants en même temps. Donc, quand elle a apporté la question des raisons familiales, on se met beaucoup à aimer nos familles quand les sondages sont plus bas. Là. On s'entend, il y a d'autres éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Mais ça faisait quand même un certain sens, étant donné que la famille a été au centre de son engagement politique depuis son élection en 2017. elle a aussi rendu le poste de vice-première ministre autre chose qu'un poste honorifique ou symbolique. Pendant la pandémie, là, les mauvais souvenirs de la pandémie, vous m'excuserez, elle remplaçait M. Legault une journée sur deux à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait seulement la moitié des élus qui venaient parce qu'il fallait s'asseoir à tout à un siège de distance. Là, vous vous rappelez de cette merveilleuse époque. Ah, oui. Et Mme Guilbeault répondait aux questions comme si elle était première ministre et elle faisait les conférences de presse aussi. Donc, Mme Guilbeault a vraiment été mise de l'avant pendant la pandémie. Comme ministre de la Sécurité publique, je retiens la question du déploiement des bracelets anti-rapprochement.
Ah, ça, c'est pour la société, pour les femmes violentées. Puis d'ailleurs, excellent article dans la presse sur le nombre de dénonciations qui a augmenté. Puis c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les femmes parlent.
Oui.
Ça a été vraiment une très belle révolution, une révolution importante pour le Québec et la sécurité.
Et ça aussi, ça milite pour dire que les femmes, et les femmes en politique, mais les femmes en général, c'était important pour Mme Guilbeault. Bon, après ça, transport, ça a moins bien été. Ça allait moins bien pour le gouvernement en général aussi. Donc, on parle de la crise de sa clique, évidemment. Ouais, ouais. Mais le moment le plus charnière, c'est la fin du projet de troisième lien. Avril 2023, elle se présente avec ses cartables et elle nous convainc que rien ne justifie que l'on poursuive ce projet-là. Quelques mois plus tard, élection partielle dans Jean Talon, défaite de la CAQ et M. Legault change d'idée et elle est pognée pour défendre ce qu'elle avait finalement démoli quelques mois auparavant. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va affecter sa crédibilité et qui s'est vu par plusieurs comme le moment de tournant, le tournant pour l'amour que les Québécois avaient pour le gouvernement Legault.
Vraiment et vraiment pas aidé par son chef et le premier ministre François Legault à ce moment-là. Pour continuer à parler de la CAQ et de cette course à la chefferie, on a au bout du fil le ministre des Communications également de la culture, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe, comment allez-vous?
Ça va rapidement.
Oui, c'est ça.
Ça va rapidement cette semaine.
François Legault quitte jeudi dernier. Départ de Mme Guilbeault dimanche. Départ de Sonia Lebel aujourd'hui. À quel point la CAQ est affectée à l'heure actuelle?
Ben, c'est sûr que ça bouge, mais en même temps, je pense pas qu'on doit voir ça comme quelque chose de très négatif. Pas que je me réjouisse du départ des collègues, pas du tout. Je pense que, évidemment, j'ai réagi lorsque M. Legault est parti. Même chose pour mes deux collègues dans les dernières heures en disant que c'est grâce à eux, entre autres, que la CAQ est ce qu'elle est et grâce à eux qu'on a été élus aussi parce qu'ils ont fait partie de l'équipe. Mais je pense que ce qu'on voit, faut pas le voir d'une façon négative dans le sens où on assiste à un...
Oh, est-ce qu'on a perdu M. Lacombe? On va voir s'il revient.
Si jamais vous entendez M. Lacombe, la ligne a coupé, juste nous rappeler au même numéro que vous aviez, s'il vous plaît.
Donc, on va tenter de reprendre l'entrevue avec Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe, Antonine, qui appuie Christine Fréchette. On va avoir également Suzanne Roy en entrevue à 13h25, qui, elle, appuie Simon Jolin-Barrette. Est-ce que ça va être une course à deux ou Bernard Drainville va venir s'immiscer dans les plans?
Écoute, les trois options, c'est un couronnement, un duel ou un trio pour l'instant, mais il peut y avoir des surprises aussi. Effectivement, les appuis, la course n'est pas démarrée. Les annonces de candidature ne sont pas officielles, mais là, on annonce déjà des appuis. La pré-course est bien démarrée.
Exactement. On revient justement avec le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe, vous avez appuyé officiellement dans les médias Christine Fréchette aujourd'hui. Pourquoi ce choix pour vous?
Bien, parce que je pense vraiment que Christine, c'est la candidate qui serait le mieux placée pour, même si elle est toujours en réflexion, je pense que ce serait la candidate la mieux placée pour incarner ce qui est l'ADN de la Coalition Avenir Québec depuis sa fondation, c'est-à-dire à la fois un parti qui est très économique, et en ce moment, on a des défis. Il y a de l'incertitude avec notre voisin américain. Il y a l'inflation, le coût de la vie qui a frappé les familles. Et même si on a remis de l'argent dans le portefeuille des Québécois, il en reste beaucoup à faire pour protéger les familles, la classe moyenne, les entreprises. Mais la CAQ, dans son ADN, c'est aussi le nationalisme. Puis moi, je suis un ministre qui est résolument nationaliste. Je pense qu'il faut en faire plus pour protéger notre langue. Je pense qu'il faut en faire plus pour faire rayonner notre culture. Ça fait partie de notre identité. Je pense qu'il faut s'assurer au Québec d'avoir une façon d'intégrer nos nouveaux arrivants qui respectent notre capacité d'intégration. Il faut demeurer accueillant dans le respect de cette capacité-là. Et je sais que Christine Fréchette, elle partage ma vision des choses. Donc, pour ces raisons-là, je pense que ça fait d'elle une candidate toute désignée, en plus de ses qualités humaines. C'est une femme qui est calme, c'est une femme qui est ouverte au compromis aussi, pas sur ses valeurs, mais dans la façon de travailler les dossiers. Et quand on veut être première ministre, je pense que ça, c'est une qualité qui est essentielle. Et je terminerai peut-être en disant, parce que je pourrais continuer, mais en disant que je trouve que ce serait rafraîchissant aussi d'avoir un leadership féminin, moderne, à la tête du Québec. Je pense que beaucoup de Québécois attendent ça également. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que Christine serait le choix le plus naturel, le plus évident.
Monsieur Lacombe, ça fait longtemps que vous êtes au sein de la coalition Avenir Québec. Vous avez été très proche de François Legault. Une course à la chefferie, c'est difficile hein, pour un parti. Ça divise, ça demande de prendre le camp d'un côté ou de l'autre. Il y a de la mutualité des fois qui se crée. La CAQ est en division aussi depuis un bon bout déjà de notre œil à nous. Quand on a un pied à l'extérieur, c'est ce qu'on constate. Les matelots quittent la barque, le bateau en ce moment. La stratégie de M. François Legault n'avait pas été mise en place pour la suite de sa succession. Aviez-vous l'impression qu'on avait un poulain, au moins, une dauphine à l'interne? Non. Pourquoi est-ce qu'on se divise en ce moment entre plusieurs candidats?
Non, je pense que tout ça a toujours été très transparent. Pour ma part, à l'interne, d'abord, j'ai jamais senti personne faire campagne, quelqu'un tenter de pousser le chef vers la sortie. Et ça, je vous dis que ça m'a beaucoup plu parce que le contraire aurait été très difficile à vivre. Ces luttes intestines que d'autres partis ont connues, on n'a pas connu ça à la coalition Avenir Québec. Donc, il y a une harmonie. Bien sûr, parfois, on a des discussions plus musclées avec certains collègues. Ça fait partie de la vie. On a ça dans nos propres familles. On a ça dans nos couples avec nos amoureuses ou nos amoureux. C'est normal. Mais il reste qu'on n'avait pas de clan. On n'avait pas de guerre comme d'autres partis ont eu. Donc ça, quand on gouverne, c'est très, très précieux. Maintenant, là, le premier ministre a décidé de passer la main. Et bien sûr qu'il faudra avoir une course, mais je pense qu'on est capable, en tout cas c'est mon souhait, d'en avoir une qui se déroulera bien puis qu'on sera capable de conserver cette harmonie-là. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans, qu'on est au gouvernement. On a toujours réussi, même lorsqu'on était assez bas dans les sondages. Donc, je pense qu'on est capable de continuer.
Votre appui arrive quand même assez tôt. Là. La course n'est pas encore démarrée. Évidemment, on sait qu'en coulisses, ça se prépare et ça travaille déjà sur les candidatures de certaines personnes. Mais le fait, de donner son appui aussi rapidement, vous parlez d'économie, de nationalisme. Nous, c'est sûr, là, le commun des mortels ne sait pas c'est quoi la position, par exemple, de Christine Fréchette sur un paquet d'enjeux, troisième lien, laïcité, un projet de loi sur la laïcité, on va aller encore plus loin, on veut interdire notamment les signes religieux dans les CPE. Nous, on ne connaît pas le programme de Mme Fréchette en la matière. Est-ce que vous êtes allé chercher des garanties, des engagements de votre côté pour être en mesure de nous assurer que Mme Fréchette va effectivement continuer le legs nationaliste que M. Legault avait commencé?
Bien, d'abord, je suis député de la coalition Avenir Québec, ministre également depuis 2018. Mme Fréchette a été élue en 2022. Elle a fait son entrée au Conseil des ministres. Donc, je la côtoie personnellement depuis 3 ans et demi. Puis, vous savez, quand on est au Conseil des ministres, on ne s'exprime pas seulement sur nos dossiers. Donc, quand je suis au Conseil des ministres, je ne parle pas que de culture. Je suis appelé à donner mon avis sur les questions liées à l'immigration, sur les questions liées à l'économie, sur les questions liées à la santé, à l'éducation, etc. Donc, on comprend bien où nos collègues logent sur à peu près tous les dossiers. Règle générale, on sait où logent nos collègues. Donc, ça fait 3 ans et demi que je la côtoie. Je sais quel est son avis. Je sais de quel type de nationalisme elle se réclame. Et je vous dirais que ce que moi, je vois depuis 3 ans et demi, c'est une personne avec laquelle je travaillerais très bien si elle était première ministre. Et je pense, et je veux pas me répéter, mais qu'on doit avoir un ou une chef et ultimement une première ministre qui va être capable d'allier l'économie et le nationalisme. Et ça, je pense que c'est difficile à trouver et que Mme Fréchette l'incarne très, très bien. Donc oui, mon positionnement est rapide. Bon, je suis pas reconnu pour tergiverser. Je consulte habituellement, je m'entoure des bons partenaires, mais quand je prends une décision, on avance et on la défend. Dans ce cas-là, pour moi, il y avait, même si il y a d'autres candidats qui ont de très bonnes qualités aussi, puis avec lesquels je suis à peu près d'accord sur tous les dossiers, Il reste que pour moi, l'incarnation de l'économie et du nationalisme, la meilleure personne pour le faire, c'est vraiment Mme Fréchette.
En terminant, M. Lacombe, est-ce que le fait de vous projeter et d'appuyer Christine Fréchette fait en sorte que vous nous assurez que vous allez vous représenter aux élections d'octobre 2026?
Oui, c'est ce que j'ai dit au premier ministre aussi. Donc, c'est une grosse année, cette année électorale. Mon plus grand va faire son entrée au secondaire en pleine campagne électorale. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Mais j'ai deux petits garçons qui m'ont poussé à continuer parce qu'ils trouvent que c'est important. Donc, j'ai beaucoup hésité, mais à l'heure où on se parle, c'est mon intention. Je serai sur les rangs en 2026, en octobre.
Mathieu Lacombe est ministre de la Culture et des Communications et député de Papineau pour la Coalition Avenir Québec. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui et on vous souhaite une belle continuité.
Un plaisir, merci à vous.
Merci beaucoup. C'était Mathieu Lacombe, ministre des Cultures et des Communications. Quand je regarde sur Québec 125, la CAQ est troisième présentement dans Papineau à peu près 18 %. Le PQ deuxième à 25 %. C'est le PLQ en premier à 29 %. Ouais. Il va avoir un méchant travail à faire, Mathieu Lacombe.
Bien, l'Outaouais, ça a été rouge pendant très, très longtemps. D'ailleurs, oui. À mon humble avis, ça leur a énormément ennuyé parce que c'était une région qui était prise pour acquise. Hein. Tu veux que les gens chicanent pour t'avoir là, dans la vie. Là. pendant longtemps sur Québec 125, Mathieu Lacombe faisait partie des derniers députés à tenir le coup dans les projections. Donc, quand il restait 4-5 députés, il était encore là oui. avec l'Assomption.
Puis en passant, une qui tenait le coup, c'est Sonia Lebel qui est à 27 % présentement dans Champlain. Et c'est 29 % de PQ.
Et Christian Dubé a tenu longtemps oui. aussi. Donc, il ne faut pas sous-estimer là, dans Papineau si jamais la CAQ réussit à remonter de quelques points. Ça, des fois, hein, selon les luttes à trois, ça peut revirer de bord assez vite.
Oui, des fois, c'est l'outsider dans la lutte à trois qui réussit à se faufiler. Donc, ça pourrait arriver, mais très content de savoir qu'il va se représenter. Honnêtement, c'est un ministre d'une grande qualité.
Mais tu sais, hein, quand M. Legault a démissionné la semaine passée, on spéculait un peu sur les noms possibles. Moi, je trouvais que Mathieu Lacombe pourrait être un candidat qui se fasse un peu plus connaître dans le cadre d'une course à la chefferie parce que c'est un politicien qui a un certain talent naturel, plus jeune aussi. On essaie d'aller chercher de la jeunesse en politique. Mm-hmm. Je l'écoutais parler. Bon, il parle d'économie, de nationalisme avec Christine Fréchette, mais c'est sûr qu'une Christine Fréchette contre un Simon-Jolin Barrette, veut pas, elle risque de se faire définir comme étant plus montréalaise, un peu moins région, un petit peu plus, là je le mets vraiment avec un gros guillemet, mais woke, parce que comme ministre de l'immigration, elle était beaucoup plus soft qu'un Jean-François Roberge ou un Simon-Jolin Barrette qui a été aussi ministre de l'immigration. En même temps, elle a livré la marchandise, elle a réussi à parler d'immigration sans diviser, ce qui est vraiment quelque chose que moi je salue personnellement, mais Simon-Jolin Barrette risque de vouloir se définir comme le vrai caquiste. T'sais, celui qui était là,
début,
oui, il était dans l'opposition, et qui se présentait quand ça allait moins bien, etc. Alors que Christine Fréchette est arrivée en 2022, on s'entend que c'était sûr qu'elle allait gagner. C'était dans la vague de gens un peu, des candidatures plus vedettes, entre guillemets.
Vu que Simon-Jolin Barrette est là depuis le début puis est vu comme un vrai caquiste et tout ça, moi, ça m'a permis de revoir un peu son passé, comme l'exercice que tu as fait avec Mme Guilbeault un peu plus tôt avec nous dans le caucus. C'est quand même quelqu'un qui a, à un moment, eu beaucoup d'attention sur la manière dont tu faisais les choses. Absolument. Qui prenait la parole, là, manque de charisme un peu dans ses dossiers.
Manque d'empathie.
D'empathie aussi. Mmh. Puis là, le charisme, c'est moi, je ne dépeins pas Simon-Jolin Barrette comme étant la personne la plus charismatique. Puis tu sais, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas les bonnes choses, mais pour moi...
Je pense que la plupart des gens seront d'accord avec toi. Personne ne va t'ostiner là-dessus.
Je veux pas être méchante. Mais
il y a des qualités aussi.
Oui, il y a des qualités aussi. Puis bon, son manque de charisme vient avec une rigueur quand même dans ses travaux puis tout ça. Chose étant, en tant que premier ministre, moi, j'ai vu une faille au niveau enveloppe externe pour Simon-Jolin Barrette à la tête d'un parti.
Bien, moi, savez-vous à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Philippe Couillard. Philippe Couillard, qui était apprécié comme ministre de la Santé, mais qu'une fois qu'il est devenu premier ministre chef au départ, le monde disait, mon Dieu, hein, il n'est pas très chaleureux, très neurochirurgien, là, médecin spécialiste, pas toujours l'empathie. Des fois, il y avait des manières de parler de certains enjeux où on sentait qu'il nous regardait de haut, par exemple. Il y a des différences très, très grandes avec Simon-Jolin Barrette, mais ça fait partie de ses faiblesses, l'empathie, l'aspect plus humain de la chose, alors que son bilan est exceptionnel. Là. Il y a beaucoup de faits d'armes.
Antonine Iacarini, merci infiniment pour le caucus. Merci de nous avoir booké l'entrevue avec Mathieu Lacombe. Puis en passant, mon frère me dit « Je manque jamais le caucus hier quand j'ai regardé le football. »
Un homme intelligent. Ah, oh, le caucus de football?
Non, non, le caucus avec Antonine Iacarini.
Ah, OK.
Il a dit pendant quelques
temps. Il dit « Dis à Anto que je manque jamais un caucus. »
Parce qu'un caucus, c'est un terme qui existe au football.
Oui, c'est
right?
un terme. Oui, c'est avant de faire le jeu, le carrière parle à ses joueurs.
Exact. Donc, son frère est un homme de bon goût, c'est ça?
Ben, alors, absolument. Un homme
alors,
de goût.
C'est ça.
On le salue.
Ben, je te remercie, mais écoute peut-être pas à radio avant que tu arrives. Non, je ferai. Sur ces belles paroles, on fait une courte pause à Boulevard 101. Gros dossier dans le Journal de Québec, Journal de Montréal aujourd'hui sur nos cégeps qui tombent en lambeaux. On est obligé de faire énormément de travaux d'urgence. On fait des cours jusqu'à 11 heures le soir parce qu'il y a une surpopulation dans nos cégeps. Alors, après la pause, on va parler avec Marie Montpetit, présidente de la Fédération des cégeps, de ces problématiques qu'ils vivent et de comment on pourrait régler ça. Mais surtout, est-ce que la situation va encore une fois s'empirer avec les années? Donc, après la pause, c'est Marie Montpetit qui est avec nous, présidente de la Fédération des cégeps, à l'émission On en jase sur Boulevard 101.